Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très très heureux de passer ces 3 heures en votre compagnie. On va passer également 3 heures en la charmante compagnie de Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On est également avec le journaliste aux médias, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
Bonjour, en pleine forme et de bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous.
Notre nouvelle recrue, vous l'avez découverte il y a 2 semaines, elle revient là aujourd'hui. C'est Élise Godfarm, entrepreneur et militante féministe. Salut Élise.
Bonjour à tous, comment ça va?
Bah écoutez, très bien, Élise. Et puis à vos côtés, il y a bien sûr l'écrivain et journaliste Fred Hermel. Bonjour Fred.
Bonjour madame, il y a Thierry Moreau, il n'arrête pas que de se moquer de ma veste.
Oui, bah ça c'est compréhensible. Pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est une veste à carreaux. Il fait un peu penser à Thierry l'ermite dans Le Père Noël est une ordure.
C'est cela, oui.
Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, une famille expulsée de son HLM pour des faits de délinquance. Est-ce qu'il faut généraliser ces expulsions? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À midi et demi, on parlera de ses parents qui font rater l'école à leurs enfants pour partir en vacances. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est choquant? Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. À 13h, 77% des Français trouvent que les droits de succession sont injustifiés. Faut-il supprimer cet impôt sur l'héritage? On attend vos réactions sur l'appli RMC. Le zapping, ce sera à 13h30, le meilleur des RMC. À 14h, on parlera de l'augmentation des comportements imprudents à la mer ou à la montagne. Doit-on mettre des amendes aux personnes irresponsables? Et puis à 14h30, RMC Conso, on va vous dire comment bien choisir vos lunettes de soleil.
RMC Estelle Midi.
Milicis sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est cette famille entière expulsée de son logement social à Taverny dans le Val d'Oise à cause de faits de délinquance. La préfecture a diffusé des images du déménagement de cette famille avec 5 enfants. Famille qui créait des nuisances dans son immeuble et dont 2 membres étaient défavorablement connus des services de police. Rémi, est-ce que c'est courant ces expulsions?
En tout cas, dans le département du Val d'Oise, oui. Parce que le préfet du Val d'Oise, on fait régulièrement la publicité, que ce soit sur le compte Twitter de la préfecture ou alors même à travers d'une vidéo, comme hier. L'an passé, le préfet du Val d'Oise indique que 15 expulsions de logements sociaux pour des faits de délinquance dans le département et 2 autres depuis le 1er avril dernier et la fin de la trêve hivernale ont été réalisées. Une 40aine de dossiers sont par ailleurs actuellement en cours, dit le préfet. Mais en fait, c'est toute la France qui est potentiellement concernée, volonté du ministre de l'Intérieur. Fin août dernier, Gérald Darmanin a écrit à tous les préfets de France pour leur demander de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent dans son courrier. Il cite plusieurs dispositions de la loi et assure que la réalisation d'un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation constitue une atteinte à l'usage paisible de son logement et que le bail peut donc être résilié et tout occupant des lieux expulsés, le délinquant comme sa famille. C'est ce qui vient de se passer là, hier, dans le Val-d'Oise.
Voilà, famille avec 5 enfants. Alors, faut-il expulser systématiquement de leur HLM les familles de délinquants? Fred Hermel.
Je ne vois pas pourquoi les gens qui occupent des HLM auraient des lois à part par rapport aux gens qui ont des bails dans des logements privés. C'est-à-dire que... Merci. Moi, je sais très bien que dans un immeuble, par exemple, vous louez un propriétaire. Si vous commettez des actes délictueux, c'est un motif de rupture du bail. Vous pouvez être viré de chez vous.
Oui, mais c'est moi, cette famille, il y a 5 enfants. Alors, il y en a deux qui posent problème et 3 qui posent pas problème. Donc, en fait, les 3 qui posent pas problème, on les fout là.
Mais simplement, un enfant dans le privé, excusez-moi, un seul enfant qui pose le problème, qui commet des actes de délinquance, je reprends les mots, grave dans le privé. C'est dans la loi, le bail peut être rompu du jour au lendemain pour ces raisons-là. Donc pourquoi il y aurait un régime particulier pour les gens qui en plus bénéficient de la solidarité nationale? C'est tout à fait logique. Quand on commet des actes graves dans le cadre, ton bail, il peut être rompu, quoi. Donc c'est normal.
Et on fait quoi de l'usage gens bourgeois avant. Maintenant, ça prend d'autres mots.
Mais... Oui, mais c'est vrai.
On fait quoi de ces gens derrière?
Les gens qui sont expulsés d'un logement privé, on fait quoi de ces gens aussi? Ils se débrouillent. Les gens, mais c'est simplement.
Non, mais a priori, cette famille bénéficie d'un logement social, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, tu vois.
Et alors, excuse-moi, en plus, c'est une raison supplémentaire. Tu bénéficies de la solidarité nationale. Et il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 800 000 familles qui sont en attente de logement social. voire même plus. Donc c'est normal. Enfin,
je veux dire, le problème,
il y a des règles à respecter.
C'est prévu par, comme on disait, c'est prévu par la loi. D'accord. C'est ce qu'on appelle le trouble de jouissance locative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des locataires, là, dans le cadre d'un HLM, troublent la jouissance locative des autres locataires, la tranquillité, pour dire les choses telles qu'elles sont, bah ça peut, ça peut amener à être, ça peut être motif d'expulsion, en tout cas de résiliation du bail.
Alors là, cette famille, effectivement, il y avait des troubles de voisinage, c'est-à-dire que elle jetait ses déchets partout, etc. Et les voisins en avaient marre, et cette famille avait menacé également des voisins. Et Élise Gottfarb, vous trouvez que ça va trop loin d'expulser une famille de son HLM ?
Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense, et ça va être un peu long, l'idée. Mais vu que je suis la nouvelle recrue, vous allez me laisser faire. Donc, en fait, j'utilise souvent une image pour parler de la société qui est pas très chic, mais je compare tout le temps la société à une cigarette. Une cigarette roulée. Ok, on a une cigarette roulée. On va dire la feuille, elle est froissée, le filtre, il est un peu pourri, et il y a pas assez de tabac dans la cigarette.
D'accord.
Ok. La solution, ce serait quoi? Ce serait de rerouler cette cigarette en entier. Sauf que qu'est-ce que fait le gouvernement? La cigarette est dans la société. Hein. Le gouvernement, au lieu de rerouler la cigarette, donc de changer la feuille, de changer le filtre et de rajouter du tabac, eh ben ils te mettent juste du tabac au-dessus et ils disent regarde, j'en ai rajouté et je tasse. Et en fait, on dirait que la cigarette elle est bien, alors qu'elle est pourrie. Et c'est l'image en fait de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la délinquance dans la société et dans les HLM notamment. C'est qu'en fait, on fait des petites mesurettes, on fait de la com, on dit voilà, on va les expulser chez eux.
Les voisins, alors que le problème,
comment ?
Les voisins, ils sont contents.
D'accord, mais le problème est beaucoup plus institutionnel et beaucoup plus profond que ça en réalité. C'est qu'aujourd'hui, dans les HLM, qui peuple les HLM ? C'est énormément de familles qui sont monoparentales, énormément de familles, de femmes notamment, victimes de violences conjugales qui sont
placées. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'est un couple et cinq enfants.
D'accord, mais une fois de plus, c'est un exemple parmi
les.
Les HLM, c'est 13% de la population française aujourd'hui qui sont dans des logements sociaux. Donc, ça représente quand même pas mal de monde. Parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de femmes, notamment victimes de violences conjugale, de femmes qui ont souffert, parce que c'est énormément de familles monoparentales, et dans ces familles monoparentales, il y a 60% de femmes, ok ? Donc, moi, je pense énormément à cette mère de famille aujourd'hui qui se retrouve punie parce que ses enfants ont fait des conneries, qui doit forcément être au SMIC et avoir 5 jobs, qui a pas le temps de s'en occuper.
J'imagine qu'elle a été prévenue, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont
évidemment,
pas été
elle a été prévenue.
Bah oui, bah donc,
c'est trop facile,
c'est
du haut.
Par cas, tu sais, hein. Mais c'est pas automatique, c'est du par cas. Ce sont des dossiers qui sont étudiés.
Oui, mais la réalité, c'est quoi? C'est que ces jeunes qui vivent dans des HLM n'ont rien à faire de leur journée. Et si on faisait.
Non, mais ils peuvent aller à l'école, attends, excuse-moi.
Ils peuvent aller à l'école, mais si on s'inspirait un peu des systèmes américains.
Heureusement que les enfants qui sont dans les HLM vont à l'école et ont des métiers, etc.
Ouais,
et traînent pas dans la rue toute la journée. En fin
oui, mais en fait, on est dans un système où aujourd'hui, il y a des pays comme aux États-Unis où le matin on va à l'école et l'après-midi on bosse pour des assos. Donc que ce soit une asso sportive, une asso musicale, une association pour les animaux, je sais pas. Il serait peut-être temps de s'inspirer de ça pour que les jeunes aient quelque chose à faire. En fait,
il
faut que tu me dises un truc. 50% des délinquants aujourd'hui en France, des jeunes délinquants, ont grandi dans des familles violentes. Donc en fait, c'est des gens qui ont souvent été victimes de violences.
Donc on laisse faire, et parce qu'on dit le pauvre petit, il a pas eu de chance, quoi.
Bah, c'est des gens qui ont soit été témoins des violences conjugales de leur mère, soit qui eux-mêmes ont été victimes de violences. On va pas en plus les punir.
Mais j'entends que c'est dur. Mais sauf qu'à un moment, il y a un truc.
Il faut rerouler la cigarette, Estelle.
Oui, mais la société, il y a pas des règles différentes dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment, tu regardes dans cet immeuble, il y avait une famille qui causait des problèmes, et effectivement, c'est certainement une famille dysfonctionnelle. Je veux bien tout entendre, mais sauf que tu penses aussi au voisin. Le voisin, il n'a pas à supporter le fait que cette famille, effectivement, il y a eu des antécédents de violence, etc.
Je suis d'accord. Et le bailleur a décidé.
T'appelles le vivre ensemble.
Le bailleur a décidé de les éjecter. Mais justement.
Et le préfet, mais il a prévenu. Il a pas dit un matin, tenez, il y a un camion de déménagement en bas, madame.
Bien sûr.
Voilà, vous prenez vos clics et vos sacs et vous dégagez.
Pour ce cas, il n'y a pas de souci, mais de là à généraliser, je trouve ça abusé et je trouve surtout qu'il faut repartir aux sources du problème.
C'est toi-même qui génère. Tous les deux, vous essentialisez, en fait.
Oh.
Pour l'une, tu essentialises toutes les femmes sont monoparentales en difficulté et toi, tu dis.
Dans un HLM, t'es en difficulté.
Je pense qu'il faut faire du sur-mesure, tout simplement. Quand on a affaire à une famille monoparentale en difficulté, il faut l'aider, il ne faut pas rajouter de la misère à la misère. Je suis bien d'accord. Moi, je me souviens, Michel Rocard, lors de son discours de politique générale en 88, il avait dit qu'il faut faire des grandes mesures, il faut mettre de l'argent, mais il faut aussi s'intéresser à réparer les boîtes aux lettres qui sont cassées en bas des immeubles.
Ouais.
Parce que c'est aussi ce genre de petits détails qui fait que ça fonctionne. Donc quand les voisins ils voient une famille dysfonctionnelle et quand ce sont des délinquants, de père en fils ou de mère en fille, quand l'ensemble du groupe social que forme cette famille est un problème, eh ben pourquoi bénéficierait-il de la solidarité nationale avec ce logement ? Il a été averti, premier avertissement, deuxième avertissement, convocation sans doute à la mairie, peut-être même convocation au commissariat.
On rappelle qu'il y a des centaines de milliers de familles qui attendent un HLM. Des familles qui travaillent, où tout se passe bien.
Mais est-ce que mettre ces gens à la rue ?
Excuse-moi, ouais. Pour ces familles qui sont structurellement délinquantes et dont c'est un système, et ben de cela, aucune pitié, de la sévérité. Il faut être sévère, comme on l'est dans le privé. Autrefois, quand tu prenais un appartement, tu avais dans le bail l'usage bourgeois de l'appartement. Maintenant, ça a changé, ça s'appelle plus comme ça. Si tu faisais pas ça, bah moi, je connais quelqu'un dont le fils a brûlé une poubelle, bah il s'est fait virer, son bail a été radié.
Oui, mais ces gens, tu les mets dans la rue, ils vont pas arrêter d'être délinquants, de toute façon.
Bah, ils vont arrêter d'emmerder les voisins.
Ouais, voilà. Oui, ils en emmerderont
d'accord.
D'autres.
D'accord, voilà, ils en emmerderont d'autres. En fait, le problème, il est systémique.
Alors, c'est quoi ta solution?
Non, l'important, c'est qu'il n'y a pas d'impunité.
Mais pousse ton histoire de cigarette jusqu'au bout. C'est quoi ta solution?
Mais rapidement.
La solution, quand tu la prends, tu la mets où? Pour ne pas qu'elle gêne ses voisins.
Ma solution,
tu la mets
elle
toute seule
pas...
dans un camp?
Non, tu la mets pas toute seule dans un camp, tu la laisses dans l'immeuble, mais ma solution, c'est de refonder intégralement le système éducatif. Parce que c'est délinquant, ces enfants. Bah, les gars,
ça prend
du temps,
mais
pour les voisins.
Non, on peut prendre des décisions qui vont vite.
On est en train de refonder le système éducatif. Dans 50 ans, il n'y aura plus de nuisance.
Voilà, c'est ça.
Alors, je trouve que vous êtes trop radicaux.
Rémi, tu voulais rajouter?
Je voulais rajouter deux éléments. Le préfet du Val d'Oise, donc ça s'est passé dans le Val d'Oise, était sur BFM TV hier. Donc très clairement, il assume ses décisions. Hein. Il a dit que la famille concernée, qui vient d'être expulsée, avait été clairement avertie, que la procédure d'expulsion arrivait et qu'elle avait été avertie, que désormais il leur appartient de trouver une solution de logement dans le parc privé, pour ceux qui se demanderaient où ils vont aller maintenant, mais c'est à eux de se débrouiller.
Poser la question, hein.
Et à la question qui lui a été posée hier sur BFM TV, est-ce que ces décisions, elles sont dissuasives? Pour l'instant, il répond, l'avenir le dira. Mais en tout cas, il voit l'occasion de sortir des délinquants de leur écosystème habituel. Voilà ce qu'il dit.
Et on aura la députée Renaissance du Val d'Oise dans un instant avec nous. C'est Céline, Cécile Riac. On est avec Ariel tout d'abord. Ariel, qui est gardien d'immeuble dans le Val d'Oise justement. Bonjour Ariel.
Alors je sais pas.
Adèle, pardon.
Moi,
excusez-moi.
Vous appelez Ariel, moi c'est plutôt Adèle.
Non, Adèle. Excusez-moi, j'ai mal lu. J'ai un petit problème de vision en ce moment. Voilà. Désolée Adèle. Vous êtes gardien d'immeuble dans le Val d'Oise. C'est un immeuble HLM, Adèle?
Oui, c'est ça. Oui, c'est on peut dire une cité HLM, une cité sensible, on va dire.
D'accord.
Et déjà, moi, ce que je voulais faire, c'est tirer mon chapeau à ce monsieur, au préfet, parce qu'il a le courage de faire des choses qui n'ont pas été faites ou les mesures n'ont pas été jusqu'au bout. Ça veut dire que moi, je peux vous parler pour des cas que j'ai vécu dans la cité où je travaille. Il y a des familles qui ont été convoquées. Ils ont été convoqués chez le bailleur. Ça les a un peu calmés. Une fois que ça s'est tassé, qu'ils ont vu qu'ils ne risquaient plus grand chose parce que ça y est, au-delà de la convocation, ils sont revenus et le bazar continue. Donc là, la famille qui a été expulsée dans le Val d'Oise, pas très loin de chez moi d'ailleurs, je pense que ça va leur servir de leçon à eux et à tous leurs amis et à tout leur entourage. Ils vont se dire, on n'est plus en impunité, on peut plus faire ce qu'on veut. Parce que les gens qui sont choqués de cette mesure, de cette décision, ils n'ont pas vécu dans les cités, dans les bâtiments, où quand tu rentres, il y a une dizaine de jeunes qui ne te laissent pas passer, qui fument leur shit, et qui
font du bruit jusqu'à 3h du mat.
Oui, qui dorment dans les parties communes, ou encore pire, on sait très bien que dans certaines cités, il y a des trafics de stupéfiants, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent, vous savez, qu'on ne peut pas prendre la cage d'escalier. On peut pas parce qu'ils mettent des caddies pour bloquer l'arrivée de la police au cas où. Donc il y a eu un drame qui s'était passé il y a quelques années dans le 93. Il y a eu un incendie, les gens ont voulu descendre. Comme il y avait plein de chariots, des caddies de supermarché qui bloquaient l'accès de la cage d'escalier, ils ont fini par mourir asphyxiés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe comme à Marseille. Vous savez, le pauvre monsieur de plus de 70 ans qui est rentré chez lui, qui a fait une remarque.
Qui était poignardé, ouais.
On attend ça, mais si cette famille elle est expulsée, eh ben ils n'auront plus le loisir ou l'occasion de traîner dans les parties communes, dans les.
Mais ils le feront ailleurs, Adèle.
Peut-être pas, parce que la maman, si elle a été expulsée à cause de son fils, si elle vit une période elle vit une traversée du désert, elle va se dire, écoute mon fils, soit tu prends ton envol, tu vas vivre de ton côté, ou soit si tu veux rester à la maison, il y a des consignes à respecter, telle heure t'es pas dehors, tu ne traînes pas dans le bâtiment, tu ne traînes pas dans la cité, et tu fais pas ce que tu veux.
Non mais après, si ça sert à réinsérer des gens, effectivement, et que c'est dissuasif pour d'autres familles, tant mieux. Après, la difficulté, c'est de savoir déjà où va aller cette famille, parce que si cette famille se retrouve à la rue, je veux dire, pour manger, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va continuer dans la délinquance. Et à un moment, il faut quand même savoir où on met les gens. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de cette famille, on ne sait pas du tout. Elle doit se trouver un appartement dans le parc privé, mais pour trouver un appartement dans le parc privé pour 7 personnes, déjà, ça coûte un petit peu cher. Et si le dossier a été accepté pour des logements sociaux, c'est qu'a priori c'est pas une famille qui roule sur l'or, donc il y a aussi ces conséquences là à étudier. Mais après, je comprends qu'évidemment pour les voisins ça doit être un soulagement. Merci en tout cas Adèle d'avoir été avec nous, et désolée d'avoir écorché votre prénom. Et on a pas mal de messages sur l'appli RMC sur ce sujet, Rémi.
Mais j'ai ce message de Jean-Luc par exemple sur Direct Studio qui nous dit: moi je ne vois pas où est le problème. Effectivement, dans un HLM on a peut-être davantage encore de devoirs qu'ailleurs. Il s'agit de logements sociaux payés par l'ensemble de la société, comme le nom l'indique, et il faut se respecter les uns et les autres.
Notre invitée sur ce débat, c'est Cécile Riac. Elle est députée apparentée Renaissance du Val d'Oise. Bonjour Cécile Riac.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes en accord avec le préfet du Val d'Oise qui a expulsé cette famille?
Totalement en accord, et je dois d'ailleurs préciser que ce n'est pas une décision, j'ai entendu l'un de vos intervenants le dire, c'est pas quelque chose qui a été brutal, c'est une décision qui a été prise de longue haleine. Il y a eu plusieurs temps d'une procédure, et tout de suite je réponds aussi à une autre question. Bien évidemment, il n'est pas question de le généraliser à toute forme de délinquance, et nous sommes dans des cas très très particuliers.
Alors c'est quoi ces cas justement, Cécile Riac? Qu'est-ce qui justifie qu'on expulse une famille de son HLM?
Alors, dans les cas qu'il y a eu, parce qu'aujourd'hui on parle de l'affaire de Taverny, mais il faut savoir que dans le Val d'Oise, nous en sommes déjà à plus d'une quinzaine d'expulsions, et que ça a débuté déjà dès l'année dernière. Dans tous les cas d'expulsion, ce sont des multirécidivistes, ce sont des jeunes gens, majeurs ou mineurs, qui ont été impliqués, la plupart du temps dans des agressions physiques, agressions sexuelles, il y a eu des trafics de drogue, il y a eu de la dégradation de biens publics. Certaines expulsions qui ont eu lieu l'année dernière l'ont été suite, par exemple, aux émeutes urbaines.
Mais Cécile Riac, quelque part, là, la famille avait 5 enfants. Apparemment, il y a 2 enfants qui posaient problème. Donc, c'est-à-dire que les 3 autres, ça allait. Mais quelque part, quand on prend une décision comme ça, on pénalise toute la famille. Les 3 gamins qui n'avaient rien fait, ils se retrouvent pénalisés comme leur grand frère, quoi.
Oui, c'est la difficulté, en effet, de ce point-là. Mais lorsque vous avez été... Par exemple, je prends le cas de cette famille, et je connais très bien la mère de Taverny. La mère de Taverny a déjà aussi fait son rôle d'élu local, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui ont posé problème, par exemple, et donc elle a fait son rôle d'élu de demander rendez-vous à la famille parce qu'il y avait des troubles d'ordre... La famille ne s'y est pas présentée. Lorsqu'il y a eu les premières lettres du bailleur, lorsqu'il y a eu déjà des demandes de conciliation, la famille n'a pas répondu dans ce cas très précis. Donc, arrivé à un moment lorsque le dialogue n'est pas possible, oui, il y a d'autres enfants qui vont en pâtir, mais j'entendais tout à l'heure le gardien d'immeuble, il a tout à fait raison, parce que lorsqu'il y a un déplacement aussi de ces familles-là, ça fait véritablement réfléchir, et ça fait réfléchir tout le monde.
Et justement, est-ce que vous savez où va aller cette famille, Cécile Riac?
Vous imaginez bien qu'il y a quand même ils ont le droit à leur vie privée. Bien et sûr. Donc cette famille-là, bien évidemment, doit se reloger. Elle ne sera pas relogée dans le parc social du Val d'Oise. Ça, c'est une certitude.
Est-ce qu'il y a d'autres familles qui sont sous le coup d'une expulsion aujourd'hui dans le Val d'Oise?
Aujourd'hui, parce que il y a aussi le cas de la trêve hivernale. Donc c'est pour ça que les expulsions ont
repris. 31 mars.
Oui, il y a des procédures qui ont été engagées pour la plupart l'année dernière, parce que ce sont des procédures très longues. Mm-hmm. Et oui, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a plus d'une quarantaine d'expulsions qui sont déjà dans les tuyaux, et la quasi-totalité sont liées à des trafic de drogue, et elles sont souvent mises en relation avec l'opération qui a été menée par le ministre Gérald Darmanin, c'est-à-dire PlaceNet, dont vous avez certainement entendu parler.
Bah merci beaucoup en tout cas Cécile Riac pour toutes ces précisions, députée apparentée Renaissance du Val d'Oise. Et je voyais Élise Godefarbe, pendant que la députée parlait, qui se faisait toute petite sur son siège. J'ai l'impression que vous avez quand même changé d'avis là.
Non, j'ai pas du tout changé d'avis, elle a raison, mais comment est-ce qu'on prévient? Bon, en fait, tout mon sujet, à chaque fois que vous allez me donner un problème de société de toute façon, je vais vous dire c'est quoi la source, c'est quoi l'origine? Comment est-ce qu'aujourd'hui on prévient la délinquance? Non, c'est qu'est-ce que ces élus font pour prévenir la délinquance?
Sauf concrètement, que toi, tu proposes une solution à long terme,
oui,
pour un
mais
problème
parce que...
qui est
non,
immédiat.
Mais justement,
et donc
on a
pas
besoin
de solution pour l'immédiateté.
C'est le problème de notre société aujourd'hui, c'est le problème de notre société des réseaux sociaux. On pense tout le temps court terme au lieu de penser à long terme.
Les voisins, eux, ils pensent court terme parce
oui,
que c'est le bazar
Thierry,
tous les jours.
Oui, mais le court terme va être du long terme pour les voisins.
Cette situation, mais les gars, cette situation, elle est pas née il y a deux ans. Ça fait 30 ans que ça dure et qu'on fait rien.
Mais moi, quand je vois que t'as une infirmière qui galère, qui travaille de nuit, etc., tu peux pas se loger dans le parc social, et à côté, il y a une famille de délinquants qui embête tout le monde,
et
logée, et donc, avec des avantages inhérents au logement social, ben, je suis désolée.
Donc,
et le voisin de cette famille, ben, il préfère certainement avoir la petite infirmière qui travaille la nuit.
D'accord, donc ces familles se font expulser.
Ouais.
D'accord, soit.
Ouais.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À quoi on réfléchit pour que la situation ne se reproduise pas?
On espère que ce sera dissuasif pour les autres familles qui vont se dire, attends, il y a la famille machin qui a été expulsée, je vais peut-être calmer mes gosses pour pas que ça nous arrive.
Oui, mais moi, ce que je me dis, c'est que cette famille, donc, qui a 5 enfants, ils vont se faire expulser dans le privé.
Ouais.
Le privé, comment tu payes un loyer pour 7 quand t'es au SMIC?
Ils ont été prévenus.
Et vous pensez.
Frérot,
ils sont même pas présentés.
Il est même pas aux conciliations.
Tu penses vraiment
que ça dure?
Vous pensez vraiment que les mecs, ils vont pas encore plus être justement dans la délinquance et dealer pour pouvoir aider les parents à payer le loyer?
Allez, en tôle.
Il faut penser de façon systémique.
T'inquiète pas, on va continuer à payer.
Il faut penser système. Et je sais que c'est du long terme et que c'est chiant, mais j'espère, je prie de tout mon être pour qu'il y ait des gens qui ouais, il faut faire les deux.
Faire les deux.
Je prie de tout mon être pour qu'il y ait des gens au gouvernement qui y pensent, qui y réfléchissent. J'espère que les gens.
Mais t'as pas de solution court terme.
Exactement. Alors je voudrais juste qu'on termine avec l'autre fille qui s'appelle Dermont dans le Val d'Oise et qui est VTC. Bonjour l'autre fille.
Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous.
Bonjour.
Bonjour aussi.
Alors les discours de c'est du long terme. Alors moi j'ai 29 ans, donc je suis quand même jeune. Mais moi il y a 14 ans, quand j'avais 15 ans et que ma mère elle prenait mon carnet de correspondance, je perdais 5 kilos.
Moi aussi.
Moi je perdais 5 kilos. La famille Portelli, donc la mère de Portelli, le papa était le maire de ma ville, Dermont.
Ouais.
Donc je connais bien la famille entre guillemets politique. C'est pas des gens ni extrême droite, ni fasciste, ni rien. Ils étaient super cool avec nous. Et j'habitais dans un quartier super sensible à l'époque où c'était Sarko qui était au ministère de l'Intérieur. Quand il passait le coup de Karcher, c'était le vrai coup de Karcher. Et c'était pas il y a 30 ans ou 40 ans, c'était il y a à peine 15 ans. J'avais 15 ans. Et moi, les gars de mon quartier, je me rappelle, quand ils se faisaient choper, à l'époque, il y avait la menace de tu continues comme ça, c'est l'internat militaire ou tu vas à l'armée directement. Et je me rappelle, en 2007-2008...
Attends, ça rigolait pas, quoi.
Si je dis pas de bêtises, en 2007-2008, bon, j'étais quand même minot, la moitié des grands de mon quartier, avant d'aller en prison, ils allaient au militaire. Ils étaient chez les militaires, ils étaient au Mali. Et les mecs, quand ils sont sortis 3-4 ans après, donc déjà, ils avaient du pécule de côté, et les mecs, ils sont sortis 9 W, ils ont marié des enfants, ça les a vite calmés. Donc les dialogues de oui, c'est du long terme, qu'est-ce qu'on fait tout. Et puis en plus, la France, un pays administratif, ça fait quand même. La famille, ça fait combien d'années qu'elles sont prévenues, qu'ils sont en train de foutre le bordel?
Oui, là, ça faisait plus d'un an. Donc effectivement, ils se sont pas rendus aux convocations. Donc à un moment, le minimum, c'est au moins d'être poli et de se rendre aux convocations.
On manque de respect à tout le monde. Et moi, en plus, on va dire, dans ce cas-là, j'ai un avantage d'être franco-algérien. Nous, on a une éducation, les gens éduqués, je parle pas de tous les immigrés et tout. C'est, nous, vu qu'on a les deux passeports, le premier de la famille qui fait une connerie, on l'envoie au bled.
Oui, non, mais après c'est pas une histoire d'Algérie, de pays d'immigrés, machin. Non, là c'est juste des gens qui c'est des familles de délinquants et qui embêtent leur voisinage. Genre, on se fout de savoir d'où ils viennent. En fait, c'est pas le propos. Mais merci beaucoup l'autre fille en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, finalement, mais l'autre fille aussi est d'accord avec le préfet du Val d'Oise. Ben voilà, faut
les gens qui habitent là-bas, ils sont d'accord avec le préfet.
Ben oui.
Mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord.
Écoute, les témoignages sont des gens qui vivent au quotidien.
En même temps, si tous les Français sont d'accord, je peux te dire que ça va généraliser les expulsions.
Bien sûr.
Alors que si la majorité est contre, ça repousserait un petit peu. D'ailleurs, on va voir.
Justement. Au bout de quelques mois ou quelques années, c'est vraiment efficace sur l'ensemble du côté paisible.
Est-ce que ce à quoi, pour l'instant, le préfet ne répond pas?
On verra avec le temps. Et justement, on a fait un sondage sur la question pour voir un petit peu la tendance. Faut-il expulser systématiquement, je crois, les familles de délinquants de leur HLM?
11% de contre.
Aïe, aïe,
donc ça veut dire 89% de personnes qui approuvent ce type de mesure.
Dans un instant, un sujet plus léger. Vous savez, on va parler de ces parents qui font rater l'école à leurs enfants pour partir plus tôt en vacances. Est-ce comme que ça vous est déjà arrivé?
Comme toi, par exemple?
Comme moi, bon, oui, je le dis, oui, bon. Oui, mais je sais, c'est pas bien, mais bon,
tu fais ça?
Oui, mais je l'ai déjà fait, mais je vous expliquerai pourquoi après. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est choquant?
C'est choquant.
Mais arrêtez de me regarder comme ça. On en parle dans un instant. Et si vous êtes, si vous êtes enseignant, bah, appelez-nous et dites-nous ce que ça vous fait quand effectivement vous voyez des enfants bah, rater le dernier jour d'école pour partir en vacances. Et si vous êtes parent et que vous le faites, appelez-nous aussi. À tout de suite sur RMC.
Très déçu.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h32, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Élise Gottfarb et Fred Hermel. Et tout de suite, on va s'intéresser au comportement du jour. Vous l'avez peut-être eu d'ailleurs, ce comportement, c'est celui de certains parents qui n'hésitent pas à faire manquer l'école à leurs enfants pour partir en vacances. Dernier jour de classe avant les congés, ou même une semaine pour partir hors vacances scolaires. De nombreux parents n'hésitent pas à privilégier leur propre emploi du temps au détriment de la scolarité de leurs enfants. Mais alors Rémi, que dit la loi à ce sujet?
Là-dessus. Oui, absolument, Estelle. Je sais que tu l'as déjà fait, mais c'est grave.
Oui,
depuis septembre 2019, l'article L131-1 du Code de l'éducation dispose tout d'abord que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. L'élève doit assister aux cours prévus dans son emploi du temps, sauf s'il bénéficie d'une autorisation d'absence.
Autorisation d'absence pour les vacances.
Pour un événement familial, et encore, ça doit être autorisé.
Les vacances, c'est un événement familial.
Par l'école. Or, partir en vacances en dehors des congés fixés par le calendrier scolaire ne constitue pas un motif légitime d'absence. Voilà ce que dit l'Éducation nationale. À ce sujet, un autre article, l'article L131-10 du Code de l'éducation, Estelle, prévoit que les parents qui n'assurent pas l'obligation d'assiduité scolaire de leurs enfants peuvent être punis d'une amende administrative de 750 euros. Cette amende peut être prononcée par la juge de, ou le juge des enfants après constatation de l'absentéisme scolaire. Et si ces absences injustifiées vont jusqu'à compromettre l'éducation de votre enfant, vous risquez jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, même si dans les faits, ces amendes ne sont quasi jamais appliquées.
On vous apportera des oranges, Estelle.
Non mais attendez, non mais je l'ai fait, évidemment, mais parce que j'amène mes enfants en vacances, je considère que quand ils sont avec moi, effectivement, et que je les emmène au musée ou n'importe, je veux dire, je les cultive, et s'ils ratent, excusez-moi, le dernier jour avant les vacances, c'est toujours, on regarde un film, on regarde Choupi ou je ne sais quoi, et on prend un goûter. Bon, bah pardon, bah, je préfère qu'ils soient avec moi, et en plus, excusez-moi, mais ça coûte 10 fois moins cher de partir le jeudi soir que le vendredi soir, donc ça fait faire d'énormes économies, puis on n'est pas avec la meute, ce qui est également appréciable. Voilà pour mes arguments. Est-il normal ou choquant de sortir ses enfants de l'école pour partir plus tôt en vacances? Thierry Moreau, vous qui avez des enfants, vous l'avez déjà fait?
Je l'ai fait une fois.
Oh,
une fois, quand ma fille avait 7 ans. C'était une époque où je travaillais beaucoup, donc je ne voyais pas mes enfants et je leur avais promis que je passerais une semaine avec eux en vacances tout seul. C'est-à-dire moi et elle. Donc je suis parti avec ma fille, elle avait 7-8 ans. J'ai demandé à la maîtresse avant, qui m'a dit: je ne peux pas vous autoriser, mais si vous le faites, faites-le. J'ai décidé de faire un truc un peu pédagogique, c'est-à-dire quand on a été en voyage, on a tenu un journal avec Sophie, qu'elle a ensuite lu devant la classe, racontant jour après jour tout ce qu'elle avait fait pendant son voyage.
C'était un
voyage à New York et c'était une occasion que je ne pouvais pas rater.
Oui.
Et donc, elle a lu ce petit livre avec la classe et à la fin, la maîtresse m'a dit: ça passe, mais je ne l'ai jamais
là,
refait.
Tu es en train de dire, là,
et je trouve ça pas bien.
Tu es en train de dire devant des centaines de milliers de personnes qu'en fait tu as fait rater la classe à un de tes enfants et tu l'as fait travailler. Ah, une semaine, c'est énorme, jamais j'ai fait ça.
Une semaine.
Ah non, mais là c'est horrible.
Une semaine.
Ah non, mais là, oh là là, quel délinquant. Affreux. Ah oui, délinquant. Une semaine, c'est beaucoup. Moi, je te parle d'un jour.
La nuit, quand elle se réveille, elle doit encore en pleurer.
Une semaine.
Mais
elle garde un très bon souvenir.
Mais c'est aussi la faute du télétravail, comme les gens ne travaillent plus le vendredi. Bah,
mais
bien
c'était
sûr,
avant la loi de 2019, donc je n'étais pas condamnable par la loi.
Très bien.
Voilà.
Fred Hermel, est-ce que ça vous choque?
Il y a prescription.
Les parents qui font des emplois du temps à la carte.
Bah ouais, un petit peu quand même. Je trouve ça moralement pas terrible. C'est vraiment, ça viendrait pas l'idée, en fait. Pour une raison très simple, je pense que c'est un manque de respect par rapport à l'institution de l'éducation nationale, et surtout un manque de respect pour les profs, quoi. Voilà.
Mais quel manque de respect? Ils sont bien contents, les profs, de faire non, cours il y a 22 élèves au lieu de 35.
Non.
C'est aussi un manque de respect pour les élèves. Moi, je considérais ça comme une face. Moi, je me suis dit, je facilite la vie de l'enseignant.
L'argument, tu de te justifier. Mais tu vas pas trouver un allié avec moi aujourd'hui. Sur plein de sujets, je peux être ton allié, mais pas sur ce sujet-là. Moi, j'aime pas ça. Je trouve pas, c'est l'école gratuite, obligatoire. Enfin, je veux dire, là aussi. Je ne vais pas relier ça avec le sujet précédent, mais il y a une responsabilité.
Mais on peut le lier au sujet précédent.
Ouais, mais moi, je trouve qu'on n'a pas à faire ça, c'est tout. Enfin, je trouve ça. Alors. Une fois pour un, il y a un événement familial spécial, etc. Oui. Non,
mais ça, si c'est autorisé. Hein,
c'est autorisé, oui, mais c'est voilà. Justifié, etc. Et ça, exactement. Je peux comprendre.
Mais les vacances sont un événement familial.
Oui, enfin, excuse-moi, mais le fait de dire, ah oui, tu vas pas faire ce jour-là, etc. Non.
J'ai vu ce matin, parce que moi, je me posais la question. Ouais. Par exemple, pour un mariage, si c'est justifié avec un justificatif.
Bien sûr.
Voilà, et que l'école accepte, ça peut être justifié.
Mais bien sûr, pour une journée comme ça, je peux comprendre. Mais le fait que ce soit allé comme ça, on économise un petit peu l'avion, on a
quand on est quatre, c'est mercantile.
Moi je n'aime pas cette idée là parce que et les parents,
alors regardez le prix des billets d'avion, vous allez comprendre,
les parents sont les premiers à aller, et peut-être, et justement à juste titre, quand le prof n'est pas là, quand le prof n'est pas là, qu'il est malade, il n'est pas remplacé par un oral, mais eux, ah oui, mon fils a manqué une journée d'école. Par contre,
bah justement, pour les vacances, pour ça, c'est donnant.
Parce que ça t'arrange pour les trucs, c'est bien ça. Non, je suis désolé, ce n'est pas justifiable.
D'accord.
Voilà. Je veux dire, dans le privé, tu fais ce que tu veux. Bah, tu le diras, bon, les subventions du privé aussi pour les profs, mais enfin, privé, tu payes. Bah, alors,
et ça, dans le privé, la loi est la même. Hein.
La loi est la même, je sais bien, mais je veux dire, mais moi, tu payes, mais tu me diras, dans le privé aussi, c'est payé par l'argent public, donc c'est la même chose. Mais c'est encore plus grave dans le public, et je pense sincèrement que d'un point de vue éducatif, c'est un mauvais message qui est envoyé à ces enfants.
Bah, je le dirai, mais je demanderai à mes enfants si je leur ai envoyé un mauvais message. Élise Godfarm, est-ce qu'il faut mettre des heures de colle aux enfants, justement, qui ont raté l'école le dernier jour parce que les parents leur ont fait rater l'école?
Mais non, on va pas mettre des heures de colle, c'est de la faute des parents. Ils y sont pour rien, c'est des kiffeurs, juste les parents les emmènent. Mais pour moi, ça soulève deux sujets. Premier sujet, quand on part en vacances et qu'on dépasse sur les horaires habituels de l'école, on rompt le pacte social, le contrat social, qui est qu'en fait, on est tous à égalité dans ce pays, d'accord ? Donc ça se fait pas que, désolé Thierry, tes enfants partent à New York une semaine pendant que les autres y bossent. En fait, ils sont en train de kiffer, probablement d'aller être à l'Apple Store ou de visiter l'ONU pendant que les autres sont en train de travailler, de passer des contrôles. Ça se fait pas pour les gens qui ne partent pas en vacances. Mais il y a un autre sujet qui est que pourquoi les gens partent en vacances pendant les temps scolaires aussi?
Parce
que c'est moins cher. Donc faut aussi se poser la question du prix, notamment des trains. Aujourd'hui, c'est quand même un délire. Il y a des différences parfois de 500 € entre un avion ou un train qui est pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires. Moi, maintenant, on est adulte, on a de la chance de partir hors vacances scolaires. Mais quand je pense aux parents qui doivent emmener leurs enfants en vacances, je me dis waouh, miskin, comme on dit.
Après, t'as aussi des professions. Tu le disais, Thierry, tu travailles beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du foot. Les footballeurs, par exemple, leur trêve, elle est grosso modo du 25 mai au 18 juin. Bah, si jamais tu décides de laisser tes enfants à l'école, tu ne vois jamais tes enfants. C'est-à-dire que tu les vois pas beaucoup. Il n'y a pas de vacances pour les footballeurs, à part une semaine à Noël. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des professions, je pense celle-là que je connais bien, mais tu as des professions où, grosso modo, si tu suis les rythmes scolaires, tu ne pars jamais avec tes enfants. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, quand tu es enfant de footballeur, partir en vacances 3 semaines avec ton papa ou rester à l'école et pas voir ton père? Je sais pas.
Minorité, hein.
Ouais. Mais bien sûr, mais c'est une minorité, mais qui existe.
Ils
existent.
C'est 2 heures d'entraînement par jour, ils sont là toute l'après-midi, hein.
Bon, écoute, j'ai pris cet exemple parce que ça m'arrangeait.
Excuse-moi, je suis le football depuis très longtemps, tu sais.
Moi aussi.
Je suis allé à tous les entraînements du Real Madrid pendant 25 ans. Je peux te dire qu'à 14h, ils sont à la maison, hein.
Mais ça n'a rien à voir avec des vacances.
Bah, enfin, tu veux dire, il faut du temps avec mes enfants. Mais quel père peut dire, ah, 14h, je suis à la maison jusqu'au lendemain matin?
Non, mais il y a de la radinerie quand même derrière le message d'Estelle. C'est genre, c'est moins cher hors période scolaire.
Évidemment que c'est moins cher.
Surtout,
mais
c'est de la radinerie, c'est de la
marine. Non, mais c'est pas de la radinerie. Il y a des gens vraiment qui galèrent.
Pour ceux qui ont des problèmes.
Oui, pour Estelle, c'est de la radinerie.
Non, mais c'est pas de la radinerie. Je vois pas pourquoi, en fait, je paierais plein pot alors que si je pars une journée avant.
Mais parce qu'il y a l'école.
C'est le contrat social, Estelle.
Et pire que de la radinerie, moi, je n'aime pas partir en vacances avec la meute. J'ai horreur de ça, de voir tous les gens, de voir tous les gens engoncés. Non, j'aime pas la foule à la gare. Non, ça c'est sûr que j'aime pas ça. Et donc en fait, quand tu pars un jour avant, mais il y a personne, donc c'est formidable. Tu pars tranquille, il y a personne et c'est moins cher. Donc pour faire rater un jour d'école, je suis désolée. Enfin, les enfants n'ont pas raté le bac parce qu'ils ont raté un jour d'école à la maternelle ou à la primaire. Et puis en plus après il y a école et école. C'est-à-dire que la maternelle c'est pas pareil que le collège. Tu vois.
Oui, c'est la maternelle, moi.
Et justement, nous avons Coralie en ligne. Et c'est très intéressant car Coralie, elle est professeure des écoles dans l'Allier. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Coralie, en tant que professeure des écoles, est-ce que vous avez beaucoup de parents qui font rater l'école à leurs enfants?
Eh ben, on en a quelques-uns quand même.
Ah.
Et souvent, c'est pas juste une journée.
Ah bon, c'est combien de temps?
Eh ben, ils peuvent partir une semaine, 2 semaines.
Ouais, c'est Thierry Moreau.
Ils prennent leurs vacances.
Et est-ce que ça vous ennuie?
Ben un peu. On a quand même des programmes à respecter, on fait des choses. Hein, un enfant au CEP qui loupe 15 jours, il loupe entre 3 et 4 sons.
Après, oui, mais tant pis pour lui après.
Bah, tant pis pour lui. Donc, du coup, il sait pas dire à la fin de l'année.
Oui, mais ça, c'est les problèmes, c'est le problème des parents, parents et du gamin.
On est d'accord. C'est le problème des parents. Et c'est pas normal que, hein, que des enfants loupent l'école. Alors que nous, on travaille aussi pour eux. On prépare des choses, on fait des activités. Pourquoi eux n'y auraient pas le droit alors que les autres y participent?
Et est-ce que, Coralie, vous faites une petite réflexion aux parents?
On fait pas de réflexion aux parents, on peut le faire, hein. Mais de toute façon, les parents, souvent, ils ont des très bonnes excuses. Hein. C'est des raisons personnelles, on a des gros soucis. Et puis l'enfant, quand il revient au bout de 15 jours, il dit « c'était trop bien, on était à la mer ».
Oui, oui, bah on peut avoir des soucis à la mer, hein, Coralie.
Oui, voilà.
Il y a des gens qui meurent même sur la Côte d'Azur. Hein.
Donc, voilà, ou ceux qui partent une semaine en plein hiver et qui reviennent avec la trace des lunettes de ski. Hein.
Bien
voilà.
Sûr.
Donc, oui. Donc on le sait toujours de toute façon. Donc on leur fait une petite réflexion en disant attention, l'école est obligatoire quand même. Hein. Après, il y a des parents qui partent beaucoup plus. Hein. On a des parents qui partent du 15 juin au 15 septembre, donc les enfants ils loupent un mois d'école.
Oui, c'est, évidemment, évidemment, c'est embêtant. Et est-ce que, Coralie, vous n'avez pas la tentation de saquer un peu l'enfant après? Vous voyez ce que je veux dire?
Non, non, c'est pas la faute de l'enfant.
Mais vous voyez ce
c'est
que
la faute
je veux
des
dire.
Parents. Par contre, moi, je partirais bien en vacances en dehors des périodes scolaires aussi. C'est moins cher, effectivement.
Bah oui, mais faites-le et dites que vous êtes malade.
Oui, ben bah voilà. Hein, bien sûr, donc ça, je serai pas remplacée. Donc on...
Oui, c'est sûr. En tout cas, je sens que ça vous agace un petit peu. Mais vous prenez ça avec le sourire, avec philosophie.
Bah oui, parce que on en a tous les ans et tout le temps, et on en aura toujours de toute façon.
Et à mon avis, encore plus maintenant avec le télétravail, où encore une fois, il y a plein de gens qui ne bossent pas le vendredi, donc effectivement, la tentation est grande.
Et l'augmentation des prix des transports aussi.
Mais surtout, Coralie, en plus, je pense que ça doit vous donner du travail en plus, parce qu'un gamin qui loupe 15 jours, à un moment, vous allez devoir rattraper un petit peu avec lui, quand même, s'il a du retard par rapport aux autres.
On doit rattraper, bien sûr, on doit rattraper. Après, il y a des enfants pour qui ce n'est pas rattrapable. Hein. Des enfants qui ont déjà du retard, on a beau faire des temps en plus, essayer de rattraper les évaluations et tout ça. Il y a des choses, c'est compliqué.
Bah merci beaucoup en tout cas Coralie et vous étiez très nombreux à nous envoyer des messages là au standard. On avait Gaëlle tiens par exemple qui est infirmière libérale et qui dit moi je fais de temps en temps je fais ça pour ma petite dernière de 12 ans qui est une très bonne élève, je l'emmène en vacances hors période scolaire parce que ça me permet de partir moins cher évidemment. Et puis Elodie aide-soignante qui dit chaque année nous faisons manquer la dernière semaine à notre fils, l'arbitrage est vite vu, on peut partir une semaine de vacances en saison basse et sinon nous ne pourrions pas partir du tout, donc les raisons économiques sont évidemment prégnantes dans ce dossier. Rémi, nous allons voir le résultat de notre consultation sur Twitter.
Oui, faire manquer l'école à ses enfants pour partir en vacances, est-ce que c'est grave, oui ou non? C'est évidemment le oui qui l'emporte, c'est grave pour 57% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, c'est pas grave pour 43 d'irresponsables comme Estelle Denis, voilà.
Excusez-moi, mais si c'est la seule chose grave dans notre société, je pense qu'on va s'en sortir, vous voyez.
C'est le relativisme.
Oui,
c'est le relativisme.
Alors que tout part de l'éducation.
Mais oui,
tout part de l'éducation, c'est quand même...
C'est ce que disait tout à l'heure
Élise,
la base, la cigarette qu'il faut refaire intégralement.
Ajoute du tabac.
Je ne fume pas. Dans un instant, nous aurons Anthony Morel qui sera sur ce plateau. Il va nous parler d'innovation high-tech pour lutter contre les vols de voitures. Et puis, à 13h, on parlera des droits de succession. Il y a quand même 77% des Français qui trouvent que les droits de succession sont injustifiés. Est-ce qu'il faut supprimer cet impôt sur l'héritage? On vous attend nombreux au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et voici tout de suite Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on va évoquer avec vous, Anthony, une statistique assez dingue. Il y a toutes les 4 minutes en France, un vol de voiture. 140 000 véhicules ont été volés l'an dernier. C'est en hausse de 5% en un an. Mais heureusement, les nouvelles technologies vont pouvoir nous aider à ne plus nous faire voler nos véhicules.
Exactement. Alors, il n'y a pas de solution magique, hein, évidemment. Mais il y a quand même plein d'innovations qui vont permettre à la fois de mieux anticiper et d'éviter les vols. On va y venir dans une minute. Mais aussi de retrouver... j'allais dire quasiment systématiquement une voiture volée, ce qui est un vrai exploit. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites voler votre voiture, il y a 6 chances sur 10 que vous ne la revoyez absolument jamais.
Mais ça fait 4 chances sur 10 qu'on la revoit.
Oui, bah c'est pas, moi je suis pas fan de cette probabilité. D'accord, quand même. Bah, bon, après, bah, on va faire beaucoup mieux. Alors notamment en installant, et ça devrait être fait par défaut dans toutes les voitures en réalité, des traceurs GPS. dans la voiture.
Un AirTag même.
Alors un AirTag, on va y revenir, c'est pas si efficace que vous le croyez. Mais un traceur GPS. Alors ça, c'est par exemple les Français de Coyote. Coyote, vous connaissez, vous voyez un
peu. Bien sûr.
Oui, oui. Ah, ils font voilà les avertisseurs de radar, tout ça. Et ben ils font aussi maintenant des systèmes anti-vol. En gros, on va installer dans votre voiture et à un endroit que même vous ne connaissez pas. Donc c'est un installateur qui fait ça. Une petite balise. Alors ça fait la taille d'une boîte d'allumettes. On en met même plusieurs à l'intérieur des sièges, etc. Qui va permettre de géolocaliser la voiture en cas de vol. Donc vous faites voler votre voiture, vous passez un coup de fil. Vous occupez plus de rien. Ils ont des chasseurs de voitures, en fait, qui sont chargés de ça. Donc, ils vont la chercher. C'est des anciens des forces de l'ordre. Ils ont un système de bip-bip, là, chaud-froid. Tu chauffes. Ah non, tu refroidis un petit peu. Ils s'approchent de la voiture.
J'adore.
Pas mal. Une fois qu'ils arrivent, bah, alors, ils n'ont pas le droit d'intervenir tout seuls, évidemment. Ouais. Ils appellent les forces de l'ordre et vous récupérez votre voiture. Ils donnent ce chiffre fou. 90% des voitures retrouvées en 48 heures. En moins de 48 heures.
Mais c'est génial.
C'est quand même énorme.
Et ça coûte combien, ce système?
Alors, ça coûte 250€ à l'installation. Et après, c'est 10€ par mois. Donc c'est un investissement.
Ah bah quand même, ouais.
Ah, c'est un investissement.
Oui, oui.
Alors après, si vous faites voler la voiture et qu'il la retrouve pas, il vous rembourse. C'est pas mal.
Ah ça c'est bien. Et s'il la retrouve, il paye
la voiture. Ah, si, non, il vous rembourse ce que vous avez payé. Il vous rembourse pas la voiture. Non, mais bon, si vous la retrouve dans 90% des cas, c'est quand même plutôt intéressant.
Alors moi je serais plutôt favorable à mettre un AirTag, hein, ça coûte 25€. Vous savez, c'est ces petits trackers d'Apple, vous en mettez partout sur vos clés et comme ça vous retrouvez votre voiture.
Oui, c'est vrai, mais c'est un peu moins efficace en réalité. Moi je suis d'accord, les AirTags c'est très pratique dans ton sac à dos, sur partout, ton vélo, etc. C'est vrai que c'est génial. Donc je rappelle le principe, hein, ça fait la taille d'une pièce de monnaie à peu près. Vous mettez ça sur n'importe quel objet et en fait ça va interagir dès qu'il y a un iPhone qui passe à proximité. Alors vous avez les mêmes choses chez Android maintenant, mais on va prendre l'exemple de l'iPhone et donc ça va envoyer un signal. Donc vous pouvez retrouver via votre smartphone où est l'objet que vous avez perdu. Après, pour les voitures, c'est un petit peu plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est que si elle a été volée et qu'elle se retrouve dans un endroit isolé, dans un parking souterrain bien bien profond, bah là, pour le coup, vous n'allez pas avoir de signal et ça va être beaucoup plus compliqué de la retrouver. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un changement sur les AirTags il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, on peut savoir qu'on a un AirTag à côté de soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisaient, par exemple, des anciens maris jaloux, ce genre de trucs, pour espionner leur femme ou leur ex-femme. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, bah, par exemple, le mec qui vous vole votre voiture, il peut, en activant certains paramètres de son téléphone, savoir qu'il y a un AirTag dans la voiture.
Enfin,
le voleur, excusez-moi, en général, ils sont à peu près au courant du truc, quoi. Ils suivent un peu les évolutions technologiques. Donc, du coup, c'est moins efficace. Je dis pas que c'est inefficace, mais c'est moins efficace.
Mmh. L'idéal serait quand même de pas se faire voler sa voiture, oui.
Alors, ça, c'est vrai. Et là aussi, il y a des innovations qui sont en train d'arriver, et notamment, la reconnaissance faciale du conducteur. Ça, c'est génial.
Ah, c'est top.
Bah, comme pour les smartphones. C'est-à-dire que pour ouvrir la portière ou pour allumer le moteur, eh ben, en fait, faut montrer votre visage. Alors, il y a plusieurs constructeurs qui ont présenté des innovations comme ça. Vous avez une caméra qui est située entre les deux portières. Donc, première chose. Donc, vous avez même plus besoin de vos clés, en fait. Vous montrez votre visage, la voiture se déverrouille. Une autre caméra qui est dans le tableau de bord pour allumer,
hein,
le moteur.
Mais quand on est une soirée déguisée, c'est compliqué, hein.
Alors, normalement, maintenant, les systèmes de reconnaissance faciale sont tellement sophistiqués que même avec une perruque, normalement, ça passe. Au pire, t'enlèves la perruque. Mais par contre, ça fonctionne pas si tu montres une photo, par exemple, de la personne pour essayer de voler la voiture.
Mais c'est-à-dire que si tu prêtes ta voiture à ton copain, par exemple.
Alors, il peut pas. Si, en fait, tu peux paramétrer pour que certaines personnes aient le droit, les gens de la famille, des amis, ce genre de choses. Mais les autres n'y ont absolument pas accès.
Et ça arrive quand ça ?
Ça a été présenté lors du dernier CES de Las Vegas. Donc, ça va arriver là dans les mois qui viennent. C'est vraiment des innovations qui sont en train d'arriver sur les modèles. Et c'est vraiment, faut traiter la voiture comme un smartphone, en fait. Donc, déverrouillage automatique, traceur GPS, ça paraît logique. La voiture, c'est un smartphone sur roue.
Merci beaucoup Anthony Morel. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. On parle de quoi demain, Anthony ?
Demain, on va parler de parcs aquatiques et d'animaux robotiques qui pourraient remplacer les dauphins notamment.
Bah
oui.
Ce sera des faux dauphins.
Des faux dauphins.
Je n'aime pas ce monde.
Plus vrai que les vrais.
Mais
vous savez que ça va être interdit. Ça va être interdit.
Oui, bah ça va être interdit.
On
se passera dauphin. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Si on va pas voir des dauphins au dolphinarium, on n'en mourra pas.
Et vous verrez des robots dauphins.
Mais je préfère ne rien voir, je crois.
Une piscine sans rien.
Voilà. Vous ferez quand même votre chronique. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Anthony, on va parler des droits de succession dans un instant. 77% des Français les trouvent injustifiés. Est-ce qu'il faut supprimer cet impôt sur l'héritage? On en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.